Le 19e tome des aventures de Juliette est maintenant en librairie et cette fois, elle part pour la Floride et je reçois son autrice, Roselyne Brasset. Bonjour, Roselyne.
Bonjour, Myriam.
Ça va bien?
Oui, ça va bien. Je suis tellement contente de te parler.
Ben moi aussi, on est presque rendus des amis. En tout cas, on ne s'est jamais rencontrés, mais on se parle à la radio. Écoute, Roselyne, il y a beaucoup de jeunes qui ont quelques références à la Floride parce que leurs grands-parents y vont pendant l'hiver. Et Roselyne, Juliette, rencontre beaucoup de gens à travers ses voyages. Et là, on aborde les liens intergénérationnels dans cette nouvelle histoire. Qu'est-ce que tu as voulu faire ressortir de cette nouvelle aventure pour Juliette cette fois?
Bien, je pense que c'est justement ça. J'avais envie de parler de liens intergénérationnels. Et effectivement, beaucoup de jeunes commencent leur vie de globe-trotteur en allant visiter leurs grands-parents en Floride. C'est le cas de Juliette, mais c'est la deuxième aventure déjà avec sa grand-maman. Cette fois-ci, elle part avec sa meilleure amie. Il y a une semaine supplémentaire à cause d'une inondation à son école. Elle a une semaine de relâche supplémentaire. Et comme la maman, c'était pas possible pour elle de la prendre en charge cette semaine supplémentaire-là, Juliette et sa meilleure amie partent pour la Floride. Et non seulement on va parler, bon, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est complètement out et que c'est pas possible, d'être sur la même longueur d'onde que des jeunes. Comme par exemple, on va parler de biodiversité dans Juliette en Floride. Puis bon, ben la biodiversité puis la protection de l'environnement, ce sont des thèmes qui rejoignent absolument tout le monde. Ça préoccupe les adultes autant que les jeunes.
Et les jeunes de plus en plus, en plus, là.
Les jeunes de plus en plus, ils en entendent parler à l'école, ils entendent leurs parents en parler, les professeurs en parlent aussi. Puis bon, les jeunes s'intéressent en général beaucoup aux animaux, hein, les animaux de compagnie, mais aussi c'est avec nos enfants qu'on va au zoo, par exemple, ou qu'on va à l'aquarium, puis tous ces endroits-là. Les enfants de tout temps se sont intéressés aux espèces animales, puis même aux espèces végétales. Alors, en Floride, il y a beaucoup à voir, on le sait. Mm-hmm. Entre autres, il y a des alligators. Il y a même des histoires qui circulent, à savoir que des alligators, parfois, s'échappent de leur du canal où ils ont l'habitude de vivre, puis se promènent en ville. Il y a plein de vidéos à cet effet-là qui foisonne sur YouTube. J'en ai vu un et ça m'a donné cette idée-là.
Ah oui, et la Floride, Roselyne, tu sais, c'est beau, c'est le fun. Je suis déjà allée. Moi aussi, j'ai vu plein d'animaux. J'en suis pas revenue encore. Mais comme tu parles de biodiversité d'animaux dans ce nouveau roman, je me suis demandé, est-ce que tu as eu quand même quelques recherches à faire? Tu parles de YouTube où tu as vu une histoire d'alligator, mais as-tu d'autres recherches à faire pour compléter cette histoire-là, là?
Ben, la première chose que j'ai fait après avoir vu cette vidéo-là, je me suis dit, ben, j'étais allée plusieurs fois en Floride avec les enfants, avec ma fille, avec mon fils. Là, je me suis dit, waouh, moi, j'ai pas vu ça quand je suis allée, des alligators qui se promènent près des rues, près des maisons. J'en ai parlé avec quelques amis, puis entre autres, il y a mon éditrice qui m'a dit, mais oui, moi, j'en ai déjà vu, j'ai vu ça à chaque année, puis on leur a même donné un surnom. Ça m'a tellement impressionnée. J'ai pris l'avion, puis je suis allée passer quelques temps en Floride. Entre autres, j'ai visité le parc national des Everglades, qui est tellement riche, qui est un parc national dédié justement à la conservation, à la protection des espèces animales et végétales. Et il y a tellement d'oiseaux à voir, il y a des tortues, il y a des alligators, il y a la panthère de la Floride, dont c'est le milieu naturel. La panthère de la Floride, c'est une espèce de gros chat sauvage qui est en voie d'extinction. Alors, c'est vraiment intéressant. Puis, cette fois-ci, au lieu d'aller chaque jour à la plage, je suis allée chaque jour au parc national des Everglades. Je suis allée chaque jour explorer et puis voir de plus en plus. Alors oui, j'ai vu plein d'alligators en live.
Puis, ça doit être impressionnant live, quand même. Oui, ça fait-tu peur?
Bien, c'est ça. On a tous peur, hein, des alligators. Ce qui m'a surtout surpris, c'est qu'en arrivant là, puis en parlant avec des biologistes, des naturalistes sur place, ils m'ont dit, non, c'est pas ils m'ont expliqué que l'alligator n'est pas dangereux pour l'homme. Alors moi, j'y croyais pas vraiment. Et là, de prendre un alligator, puis il le prend, puis il commence à le manipuler, puis il m'explique que ce sont des animaux avec le métabolisme lent. Et puis, ils ont l'habitude de dormir. Puis aussi, ils n'ont pas continuellement faim. Oui, ils sont dangereux quand ils ont faim.
Comme tout le monde.
Ils sont dans
comme
un
tout
milieu,
le monde. Moi, quand j'ai faim, je peux être dangereuse.
Ils sont de mauvaise humeur.
Oui, c'est ça.
Alors, il m'expliquait que, bon, ils ne s'attaquent pas à l'homme en général parce qu'on n'est pas leur plat préféré. Et que, de plus, quand ils ont mangé, ben, ils ont mangé pour un bon bout de temps. Ils ne mangent pas nécessairement à toutes les 3 heures, à toutes les 4 heures, ou même pas à tous les jours, je crois. Et puis, il me disait, bon, ben, il n'y a pas vraiment de danger de croiser un alligator. Dans une piste cyclable, quand on en croise un, ben, on fait un petit détour pour on l'évite, on ne passe pas sur le corps, on passe à côté, puis il n'y a généralement pas de souci. Pour qu'un alligator charge, il faut qu'il soit affamé ou malade, ou en tout cas, il y a très peu d'incidents finalement. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'alligators en Floride. La population d'alligators est énorme. Et quand on y pense, le nombre d'incidents répertoriés, il n'y a même pas un incident chaque année. Là.
Donc, il ne faut juste pas les provoquer. Écoute, Roselyne, tu l'as dit, pour moi, la Floride, c'est essentiellement la plage et le nightlife un peu et tout ça. Oui, les Everglades, c'est super beau également. Est-ce qu'on va faire d'autres découvertes sur la Floride? Puis là, on parle aux gens qui sont habitués d'y aller. Là. C'est sûr que les Everglades, il y en a qui y vont, il y en a qui y vont moins. Y a-t-il d'autres découvertes qu'on va faire avec Juliette sur la Floride?
En fait, Juliette va évidemment visiter aussi des vergers parce que dans le coin des Everglades, il y a les vergers. Elle va aller se promener aussi dans les Keys en bateau parce que c'est intéressant. Quand on va en Floride, on va faire la route des Keys, hein, puis c'est une route qui est magnifique. Là. C'est vraiment très agréable. Elle va le faire en bateau. Alors, elle va avoir un autre point de vue, un point de vue plus intéressant. Elle va faire de la plongée sous-marine. Alors, vous allez apprendre à connaître un point de plongée là, qui est très populaire auprès des plongeurs, mais qui est assez méconnu du côté des néophytes. Elle va aussi se promener à Miami Beach dans un quartier qui s'appelle le Fena District. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, mais c'est un tout nouveau quartier. Là. C'est dans un coin de Miami Beach qui avait vraiment besoin beaucoup d'amour. Et il y a un multimilliardaire qui a acquis beaucoup de terrain et qui a construit un hôtel et puis différents édifices culturels. Et ça devient le lieu, bon, des gens très riches peut-être, mais la plage est accessible à tous à Miami, hein, la plage n'est pas privée. Et on peut donc aller voir, là, il y a différents œuvres d'art qui sont visibles là, puis c'est complètement gratuit. Alors, c'est un endroit où on peut aller vivre l'espace de quelques heures, la vie des gens riches et célèbres, aller admirer, aller manger une glace peut-être au fameux hôtel Fena. Et en même temps, on découvre ce coin-là. Puis c'est tellement beau la plage de Miami. C'est une des plus belles plages du monde. Hein? Quand on voit les plages européennes, quand on connaît les plages de Miami, puis qu'après ça, on va dans les plages européennes, on se dit qu'il n'y a rien qui se compare à Miami, il n'y a rien qui se compare à la Floride.
Mais en tout cas, ça nous fait rêver. Juliette nous fait rêver. Elle n'est peut-être pas riche, mais elle est quand même maintenant célèbre. Et écoute, je voulais savoir, le livre, cette fois, est dédié à Barry. Qui est Barry?
Oui. À Barry, c'est mon chum.
OK.
Oui. Et c'est ça. Et comme on parle beaucoup du parc national des Everglades, lui, gentiment, il a accepté de venir avec moi, puis il a accepté de consacrer notre voyage en Floride à aller dans le parc à tous les jours. Alors, j'ai trouvé ça pas mal gentil. Et puis, bon, il n'apparaît pas dans le roman, bien évidemment. Là, c'est Juliette, sa grand-mère, mais le chum de sa grand-mère, peut-être.
Non, on ne sait jamais, mais au moins, il a permis cette histoire-là parce que ça a permis d'enrichir l'histoire de Juliette. On le salue, Barry. Et c'est le 19e tome, comme on l'a dit. L'écriture des romans, manifestement, ça va super bien. Tu as toujours plein de projets, puis j'ai toujours hâte de te parler parce qu'on ne finit pas que par parler de ce projet qui est en cours. Mais comment tu fais pour te renouveler histoire après histoire? J'en reviens pas à chaque fois.
Ben, c'est parce que je voyage encore. Je voyage, puis voyage après voyage. Il se passe toujours quelque chose en voyage. C'est quand même drôle parce que quand on est chez nous, il se passe pas grand-chose. Surtout les écrivains, on passe notre temps enfermé dans notre bureau ou dans notre cuisine, sur notre portable à écrire nos histoires. Mais pour peu qu'on sorte de chez soi, même si on va en Gaspésie ou en Floride, là, qui est quand même une destination qui peut paraître assez banale, ben, il se met à se passer des choses il se met à se passer des choses qui ne se passent pas quand on est chez nous. Alors, c'est vraiment là que je vais puiser mon inspiration.
Ouais.
Là, il y a Juliette en Floride qui sort, mais moi, je viens de terminer le Juliette à Boston.
Ah, ça, c'est clair. C'est clair que Juliette était déjà repartie.
Oui, c'est ça. Je me suis rendue à Boston. Puis une fois arrivée là, ben, je connaissais Boston, bon. On est tous allés, on a souvent fait une escapade à Boston l'été, c'est pas très loin de Montréal, c'est pas très loin de Québec. Mais là, je me suis intéressée à ce qui se passait autour. Je suis allée visiter Salem, je suis allée à Harvard, puis je suis allée discuter avec les étudiants d'Harvard, puis voir comment ça se passait quand on étudie dans une aussi prestigieuse université. Et Juliette était curieuse aussi de savoir comment ça se passait quand on est étudiant à l'université. Et comment ça se passe, les relations filles et garçons mm-hmm. dans le milieu scolaire. Alors, ce sont les thèmes que j'ai voulu explorer, puis c'est là que j'ai trouvé mon inspiration. Là, le 20e tome, donc, c'est un scoop, va se passer à Boston. Et je dois te dire que j'ai déjà 5000 mots d'écrit sur le 21e tome.
Oh my God! Oh my God! Mais, donc là, on peut pas savoir la destination parce qu'il faut profiter du 19e tome, puis le 20e est vraiment terminé d'écrire. Donc, on le sait, c'est à Boston. 20e tome pour Juliette. Est-ce que tu vas célébrer ça?
C'est surprenant. Je suis la première surprise parce que j'ai l'impression que c'était hier que j'écrivais Juliette à New York, Juliette à Barcelone. Puis, comme tu le sais, Juliette a toujours 13 ans, bientôt 14. Elle est sur le point d'avoir 14 ans, mais il se passe beaucoup de choses l'année de ses 13 ans. Je prends un soin jaloux à ce que ça se passe jamais la même semaine.
Oui. Mais jamais. Est-ce qu'elle va vieillir un peu? Parce que moi, je trouve ça bien cute parce que ça permet d'explorer plein de trucs pour l'adolescence. Mais est-ce que tu as envie de la faire vieillir un peu à un moment donné?
En fait, comme j'ai chaque fois choisi une semaine différente,
ouais.
Et qu'il y a 52 semaines dans l'année, je pense que il pourrait y avoir 52 tomes la même année. 13 ans. C'est ça. Alors, on verra ce qui se passe, là. Mais oui, je trouve ça intéressant de parce que, étant donné que Juliette a 13 ans, c'est plus tout à fait une enfant, c'est pas encore tout à fait véritablement une ado, c'est une préadolescente. Donc, on explore ses relations avec son groupe de pairs, avec ses meilleurs amis, avec ses professeurs, parce qu'il y a 2-3 tomes là, qui se passent en voyage scolaire. Il y avait déjà Juliette mm-hmm. en Suisse qui se passe en voyage scolaire. Juliette à Boston se passera en voyage scolaire également. On explore ses relations avec sa grand-mère, puis aussi avec le nouveau chum de sa mère, puis le nouveau chum de sa grand-mère, puis le fils du chum de sa mère. Alors, c'est très, très riche au niveau des relations, cet âge-là, je trouve.
Oui, puis on s'y retrouve quand même, parce que moi, j'ai 42 ans, puis je suis capable de me retrouver quand même dans les aventures de Juliette, parce qu'on voyage absolument. Beaucoup, puis on aimerait tous se retrouver une fois de temps en temps à 13 ans. Il me semble que c'était pas si pire la vie à cet âge-là.
Oui. Puis, Juliette, finalement, elle nous présente ce qu'elle voit. Hein. Elle nous présente le pays qu'elle visite. Alors, on l'explore avec ses yeux et à 13 ans, on est très curieux. On voit des choses que les adultes, peut-être, qui sont un peu plus blasés, ne voient pas. Alors, ce qu'elle nous raconte est intéressant, même pour les adultes. Moi, il y a beaucoup de femmes adultes qui ne ratent jamais un tome de Juliette, puis qui me disent, ben j'aime ça. C'est pas, on oublie assez facilement que Juliette n'a que 13 ans, et on s'intéresse simplement à ce qu'elle voit, à ce qu'elle nous raconte, que ce soit au niveau de la culture, au niveau de l'histoire ou au niveau des relations. Puis c'est important pour moi. J'ai jamais pensé, quand j'écrivais Juliette, que je l'écrivais seulement pour les préadolescents.
Mm-hmm.
J'ai toujours pensé que je l'écrivais aussi pour les mamans.
Ben, c'est
en fait,
vrai.
J'avais l'impression que ça allait se lire, qu'elles allaient le lire ensemble. Mais là, je réalise que j'ai un fort lectorat de femmes dont les enfants ont déjà quitté la maison.
Mais là, ça, c'est pas pire. C'est pas pire parce que Juliette, à un moment donné, va pouvoir vieillir en même temps que ses lecteurs. Puis peut-être, ça donne lieu à bien des histoires sur beaucoup d'années. On sait jamais.
Oui. Absolument, on c'est ça. Jamais. La majorité des lectrices qui ont commencé, parce que Juliette a 9 ans, ce printemps, là, il y aura 9 ans que le premier, que le tome 1 est sorti, que le Juliette à New York est sorti. Et ce que je réalise, c'est beaucoup de mes lectrices qui étaient là il y a 9 ans, donc qui avaient 14 ans à l'époque et qui ont la vingtaine avancée aujourd'hui, elles lisent encore Juliette parce que ça les intéresse toujours, parce que c'est pas tant Juliette comme les petites tranches de vie de leur héroïne préférée, puis la culture qu'elles apprennent, puis la langue aussi, hein, parce qu'à chaque fois, un lexique, puis on apprend à parler la langue du pays que visite Juliette, puis oui, il est arrivé souvent que ce soit l'anglais, mais pas nécessairement. Ben, il y aura possiblement un Juliette où on apprendra un peu d'arabe à un moment donné.
Ben, ça serait vraiment le fun. Ben, Roselyne, Juliette en Floride, on va profiter de cette 19e aventure. Il y a Boston qui s'en vient sur la liste des places à visiter pour Juliette. Au niveau des BD, ça fonctionne comment? Parce qu'il y a des aventures qui sont transposées en BD aussi. Ça va revenir, ça aussi?
Oui, absolument, absolument. Puis on vous réserve des surprises aussi pour l'automne prochain, là, au mois de novembre. Je ne peux pas encore en parler, là, mais on vous réserve des surprises de ce côté-là. Ce qui arrive, c'est que les BD, c'est plus long à réaliser qu'un roman. En fait, ce n'est pas que j'écris si vite que ça, c'est que moi, je ne fais qu'écrire finalement. Là. Alors qu'au niveau des BD, ben, on a quand même besoin de quelqu'un qui scénarise. Là. Il y a Lisette Morival qui scénarise. Elle va chercher la substantifique moelle de ce qui est important dans chacun des romans pour en faire un scénario. Une BD, traditionnellement, a 48 pages. 48 pages, c'est pas beaucoup quand on veut traduire un roman de 250 pages.
Ouais.
Et ensuite, ben, y a la formidable Émilie Decroix qui fait les dessins. Puis, le dessin, ça se fait en plusieurs étapes. Hein. Y a d'abord... une espèce de brouillon, là, ce qu'on appelle de crayonné, où elle fait chacune des cases. Puis ensuite, il y a l'ancrage, puis pour finir, c'est la colorisation. Alors, c'est un processus qui prend véritablement toute une année.
Wow!
Donc, il y a
même
moins de BD qui a... Oui, c'est ça, ça prend
c'est impressionnant.
Une grosse année.
Ouais.
Oui, c'est ça. Alors, il peut pas y avoir de sortie de BD au même rythme que les romans, parce qu'Émilie n'y arriverait pas. Ça me prendrait toute une équipe, mais moi, je ne veux pas changer une plus grosse équipe, mais ça fonctionne tellement bien à nous trois. Là, on forme un trio tellement extraordinaire. On est très attachés, les trois filles, les unes aux autres. Donc, on y va au rythme qu'Émilie est capable d'adopter. Puis,
c'est correct aussi. C'est correct parce que ça crée l'engouement ou ça crée l'attente, puis on aime ça aussi dans un sens, parce que trop, c'est comme pas assez, qu'on va dire. Fait que là, c'est parfait comme ça.
Oui, c'est ça, parce que comme il y a déjà deux romans, de toute façon, les jeunes ont de quoi s'occuper en attendant la BD. Puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les BD... Bon, mais les romans, moi, quand je les ai écrits, c'est pas nécessaire de les lire dans l'ordre. Hein. Je voulais que les enfants y aillent avec la destination qui les intéressait. Alors, à chaque fois, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de suite. On n'a pas à lire le tome 1, ensuite 2, puis 3, puis on y va. Si on a envie de commencer avec le 10e, c'est parfait. On ne se sentira pas perdu quand on va en lire un suivant. Parce que de toute façon, les saisons sont dans le désordre dans les romans. Puis c'est la même chose pour les BD. Alors, lorsqu'on fait des BD, on y va dans le désordre. On y va finalement avec le goût d'Émilie, de ce qu'elle a envie de faire. Est-ce qu'elle a envie de faire Australie ou est-ce qu'elle a... Je suis en train de vous donner un scoop, le prochain se passera en Australie.
Je m'en allais dire ça. J'écoute. Mais de toute façon, on l'a dit, c'est à peu près une semaine où ça se passe sur Idenée, ces 9, ben ces 19 tomes-là, où c'est toutes ces histoires de Juliette-là, fait qu'on on s'y perd pas. Roselyne, c'est toujours un bonheur de jaser de Juliette avec toi. En marge de Juliette, j'imagine qu'il y a ça sur ta planche comme de travail. Juliette, y a-tu d'autres projets également?
Ben oui, j'aimerais ça. J'ai en tête là, une série pour... en fait, j'ai pensé à mes lectrices, là, celles qui avaient 13 ou 14 ans en 2013, en 2014. Puis j'aimerais ça leur présenter quelque chose. Là, je travaille là-dessus. Là. J'ai commencé, j'ai pas terminé. Il y a mes Juliettes aussi qui me préoccupent. Mais éventuellement, oui, effectivement, je proposerai quelque chose aux jeunes femmes dans la mi-vingtaine.
Ben j'ai l'impression qu'elles vont être au rendez-vous et leur maman aussi parce que on aime ça suivre les aventures, ben tes aventures parce que ça sort de ta tête et de ton cœur également. Ben Roselyne, merci beaucoup. Les romans sont publiés chez Urtubiz, faut le mentionner et ben le 20e, ben on se donne rendez-vous aussi mais on va profiter du 19e tome de Juliette en Floride. Merci beaucoup.
Merci à toi, Myriam.
Merci.
C'est chaque fois un plaisir de te parler. Merci.
Ben, c'est réciproque.